Je vous présente le conférencier d'aujourd'hui, donc Monsieur Maury, délégué général du comité d'études sur les formations d'ingénieurs, né en 1942. Vous êtes ancien élève de l'école polytechnique, ingénieur au corps des mines. Vous avez été successivement directeur technique de l'école des mines de Nancy, puis responsable des écoles d'ingénieurs au ministère de l'Industrie. De 88 à 94, vous avez été directeur des relations extérieures de l'école polytechnique et depuis 1994, vous êtes délégué général du comité d'études sur les formations d'ingénieurs. Je vous passe la parole pour 50 minutes avant un échange avec la salle.
Très bien, merci. Je suis particulièrement honoré par la confiance qui m'est faite de vous parler ce soir des formations d'ingénieurs, sujet qui m'est cher. Sur lequel j'ai une expérience maintenant longue, puisque je dirige encore maintenant un centre d'expertise sur ces questions et j'ai été à plusieurs reprises dans des équipes de direction d'école. En préparant mon exposé, j'ai ressenti tout de même une réelle difficulté liée à tous les présupposés qui existent sur la question, sur le fait que très souvent on assimile formation d'ingénieurs et grandes écoles, alors que les choses sont relativement différentes, au fait également que l'on pense que nous avons en France des solutions tellement différentes de celles des autres pays que nous n'avons pas d'autre choix que de les abandonner. Alors, par rapport à cette difficulté, j'ai choisi non pas d'adopter une approche descriptive. Vous trouverez de l'information dans beaucoup de sites, et en particulier sur celui que nous avons au CEFI. J'ai choisi de me placer beaucoup plus dans une approche compréhensive. Et en fait, vous aurez droit successivement à deux exposés. Le premier exposé sera essentiellement tourné vers l'explication des spécificités des pratiques françaises, en partant d'une observation du passé, avec de longs développements sur l'histoire des écoles. Le deuxième discours, lui, sera de nature prospective, et il sera tourné potentiellement vers tous les acteurs. Je ne traiterai pas de toutes les dimensions du sujet, mais durant la séance de questions, vous aurez la possibilité de corriger ou de me voir répondre à votre curiosité. J'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises dans mon existence d'expliquer le système français de formation des ingénieurs à des étrangers. Et je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à le rendre intelligible sans faire référence à l'histoire. Et nous allons donc revenir en arrière jusqu'à la création de la première école d'ingénieurs en soi, qui est l'école des ponts et chaussées en 1747, et distinguer, dans un processus que je vais bien sûr parcourir très rapidement, cinq grandes périodes. De la création de l'école des ponts vers le milieu, jusqu'au milieu du XIXe siècle, le concept d'ingénieur est essentiellement lié au service de l'État. L'ingénieur est un fonctionnaire, il sert les desseins de l'État, et en particulier les desseins militaires. Lorsqu'on prépare des ingénieurs des ponts et chaussées, c'est pour assurer la mobilité rapide des armées. Lorsqu'on demande à avoir des ingénieurs des mines experts, c'est pour assurer la qualité des poudres. À cette première période succède, au milieu du XIXe siècle, une seconde période qui est marquée par la création de l'école centrale. L'école centrale est créée en 1830, mais ne devient véritablement active qu'en 1860, on assiste à la création de multiples écoles, d'abord des écoles de type généraliste, puis des écoles plus spécialisées, comme l'école supérieure d'électricité, des écoles de mécanique, ceci jusqu'à le début du XXe siècle. Succède ensuite une période très sombre, qui est la période de la Première Grande Guerre, la période de l'entre-guerres, qui est une période de déflation, de crise, mais qui mérite tout de même d'être signalée dès lors que c'est à ce moment qu'est créée la commission d'études d'ingénieurs, qui est un organisme au départ essentiellement défensif, mais qui aura 50 ans après une mission sensiblement élargie, dont je reparlerai tout à l'heure. On arrive avec la vitesse que j'ai choisie pour parcourir cette période, à l'après-guerre, à une période de reconstruction. 1945, c'est le début des Trente Glorieuses, et l'accent est mis sur le développement des formations d'ingénieurs, développement quantitatif et mise en ordre qualitatif. Alors, un certain nombre de décisions sont prises pour remettre un peu d'ordre dans le dispositif. Le point le plus marquant à cette époque, c'est la critique, les choses avaient déjà commencé de cette façon-là, la critique des classes préparatoires et des concours. C'est le fameux rapport Bouloche, et M. Bouloche était polytechnicien, mais ça n'empêchait pas d'être apte à critiquer le système dont il était issu. Et dans la suite du rapport Bouloche, on en vient à la création de l'INSA de Lyon, qui est une grande nouveauté, puisque l'INSA de Lyon est une école sans classe préparatoire, à cycle intégré. L'INSA de Lyon ayant été créée, et c'est tout sauf un détail, sur le modèle de l'université de Karlsruhe. Donc on voit, et on arrive ici aux années 70, le développement d'un système qui, à cette époque, forme déjà 9000 diplômés par an. De 1970 à nos jours, et en acceptant, d'évoquer cette période de manière tout à fait rapide, on assiste à un événement considérable. Donc, c'est le droit qui est donné pour la première fois à des formations universitaires de délivrer le titre d'ingénieur. C'est ce qu'on appelle les écoles internes aux universités, qui vont prendre une expansion tout à fait importante, puisque aujourd'hui elles représentent à peu près un quart des flux de formation, ce qui est évidemment tout sauf secondaire. En parallèle, on assiste à la création, d'autres modèles d'établissements, et en particulier l'université technologique de Compiègne, qui est créé cette fois sur le modèle des universités américaines, en retenant tout de même un certain nombre de caractéristiques, des grandes écoles, la sélection, l'organisation en 5 ans. Tout ceci nous amène donc à aujourd'hui, et à une évolution qui s'est encore accélérée ces dernières années, au travers de fusion d'établissements, et le nombre d'écoles qui avaient cru jusqu'à 230-240 se trouve maintenant au niveau de 200-210, c'est tout de même encore considérable. Alors, ce panorama rapide est clair, et c'était bien la raison pour laquelle je l'avais développé, un certain nombre de points tout à fait essentiels par rapport aux spécificités du système français. D'abord, sur le positionnement école-université, puisque vous savez, vous êtes venu dans cet esprit, que l'on distingue très souvent les écoles d'un côté, les universités de l'autre, et j'ai déjà montré à travers quelques références aux écoles internes que les choses n'étaient pas aussi tranchées que ça. Alors, comment peut-on comprendre le fait que les formations d'ingénieurs soient en dehors, largement en dehors des universités? Alors, ceci renvoie à plusieurs éléments d'explication. L'effacement des universités au XIXe siècle. Les universités ont été supprimées à la Révolution française dès lors qu'elles paraissaient trop liées au clergé et à l'Église. L'université impériale a été rétablie par Napoléon, mais sur un mode tout à fait centralisé, avec le minimum d'autonomie pour les différentes composantes. On est arrivé à la fin du XIXe siècle, à un moment où il fallait sortir en quelque sorte de cette solution napoléonienne, Et le choix qui a été fait, qui a été un choix, disons, longuement discuté, avec des antagonismes assez forts, a été celui de rester dans une logique relativement étatique, en particulier en maintenant comme principe, qui est d'ailleurs encore valable, même si dans l'application les choses se passent assez autrement, en maintenant le principe du monopole de délivrance des diplômes par l'État. Donc, la dissociation entre les formations d'ingénieurs et l'université, c'est en fait un fruit de l'histoire, c'est le fruit d'une évolution de l'université qui ne s'est pas bien faite, sachant que d'autres aspects interviennent, comme la réticence des disciplines, des tenants des disciplines pures, à se mêler avec des formations beaucoup plus liées aux aspects applicatifs et savoir-faire. Aujourd'hui, et j'en ai déjà donné quelques idées, les choses ont déjà changé et elles pourraient changer demain, puisque un quart des formations d'ingénieurs aujourd'hui sont dispensées dans des écoles internes aux universités, mais un quart des diplômes décernés en France le sont dans des ensembles qui, par rapport à une nomenclature internationale, se rattachent au concept d'université technique. Je pense aux universités de technologie à Compiègne, Belfort, Troyes. Je pense également aux INSA, je pense également aux INB. Une autre caractéristique, une autre conclusion que l'on peut tirer de cette analyse historique et qui est importante pour comprendre la réalité du système aujourd'hui, c'est l'attachement des institutions formant des ingénieurs à des valeurs. Et cet attachement est d'autant plus remarquable qu'il s'est prolongé au cours de l'histoire d'une manière qui peut aujourd'hui nous étonner. J'illustre cette affirmation par plusieurs exemples. L'école polytechnique a été créée dans la suite du mouvement encyclopédiste. L'école polytechnique est toujours restée attachée depuis sa création à une version universaliste du savoir, à l'intérêt d'une formation extrêmement large, à un respect complet des sciences et à une éducation d'inspiration libérale, en tout cas peu utilitariste. Si je prends maintenant l'école centrale de Paris, et on en a parlé lors de la première conférence, l'école centrale de Paris a été créée au moment de la deuxième révolution industrielle, au moment où on voulait garder une vision globale de l'entreprise, où l'ingénieur devait être l'homme qui était apte à régler tous les problèmes, et cette dimension, cette approche généraliste est restée vivace jusqu'à maintenant. On peut allonger encore la liste en pensant aux écoles liées aux facultés catholiques, créées à la fin du XIXe siècle, à un moment où on s'intéressait beaucoup au rôle de l'ingénieur dans l'encadrement social des entreprises et des usines, et où cette éducation humaniste est restée vivace jusqu'à nos jours. Cet attachement fort et durable des établissements français à leur culture au sens large est un élément important de compréhension de la réalité du système. Il est d'autant plus important à mettre en lumière qu'il est à contre-courant d'une vision que je qualifierais de purement gestionnaire des questions d'enseignement supérieur qui sous des formes parfois subtiles, gagné du terrain ces dernières années. Je voudrais compléter vision fondée sur l'histoire par quelques éléments complémentaires vous permettant de mieux saisir la réalité d'aujourd'hui du système de formation des ingénieurs. Il faut d'abord se référer à la qualité de gouvernance des établissements, qualité presque paradoxale, puisque la spécificité des écoles d'ingénieurs depuis leur création a été très largement d'avoir un directeur nommé par le ministre, donc dépendant a priori d'une autorité administrative, et pourtant cette situation tout à fait propre à la France a conduit les directeurs à bénéficier d'une grande autonomie et à gérer avec initiative et un certain bonheur leur projet pédagogique. On peut voir derrière cette qualité de gouvernance tout un ensemble de caractéristiques qui sont propres à la France, depuis les stages intégrés qui ont été lancés par Bertrand Schwartz à Nancy dans les années 1960, le développement des enseignements non techniques, qui est actuellement une fierté de toutes les écoles françaises, le lancement des coopérations internationales qui s'est fait dans les années 75, assez largement d'ailleurs à l'initiative de l'Université de Compiègne, sans évoquer d'autres sujets comme les doubles diplômes, l'ouverture sur les recrutements. Le deuxième point qui mérite d'être traité à ce stade pour éclairer la réalité du système, c'est le changement des perspectives alors que les termes restent les mêmes. On continue aujourd'hui à parler d'école, d'école d'ingénieurs, de grande école, alors que dans le passé, une école était essentiellement structurée pour dispenser une formation et un seul diplôme. On a aujourd'hui des complexes qui délivrent parfois plusieurs dizaines de diplômes différents à différents niveaux, depuis la licence jusqu'au doctorat. Le recouvrement des filières d'ingénieurs avec les universités, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Le terme d'école lui-même, et c'est déjà une observation qui prend tout son sens, le terme d'école lui-même est utilisé de plus en plus fréquemment par les universités pour qualifier des projets ayant une certaine consistance. Je pense très précisément au terme d'école doctorale qui est de plus en plus cité en modèle comme le cadre de développement naturel des formations doctorales. Que reste-t-il derrière toute cette évolution du terme de grande école ? Le terme de grande école est aujourd'hui beaucoup plus une réalité culturelle qu'une réalité institutionnelle. Et j'illustrerai cette affirmation par un exemple tout à fait éminent, puisqu'il s'agit de l'École normale supérieure. L'École normale supérieure est perçue par vous, par le monde, par tous les milieux qui s'intéressent à l'éducation, comme l'archétype de la grande école, avec, disons, la préservation d'une culture assez élitiste, et en même temps, l'École normale supérieure est totalement intégrée dans l'université, et donc universitaire de statut, sans qu'il y ait le moindre doute à cela. Ayant ainsi brossé, disons, un certain tableau de la réalité des formations d'ingénieurs françaises, je voudrais maintenant aborder ce qui était un peu mon deuxième grand thème, le thème de la comparaison, le rapport entre le modèle français et les modèles étrangers. Et cette sous-question qui est tout un programme, sommes-nous si différents des autres ? Si l'on regarde l'ensemble des formations d'ingénieurs dans le monde entier, on est frappé par un parallélisme des évolutions. Les formations d'ingénieurs se sont développées dans tous les pays à partir du milieu du 19e siècle. On comptait à cette époque de l'ordre de, pour l'ensemble du monde entier en 1860, 1500 diplômes. Je ne sais pas si ce chiffre ne peut pas vous frapper. Et disons, dans tous les pays, les créations allaient se suivre tout au long de la fin du 19e siècle, puisqu'en 1920, donc 60 ans plus tard, on comptait mondialement 30 000 diplômes d'ingénieurs délivrés, ce qui est actuellement le chiffre pour la France. Ce développement, donc un développement à un rythme impressionnant de 6% par an, qui est un rythme vraiment très élevé, ce développement allait se faire de manière assez similaire dans tous les pays. En fait, on allait créer que ce soit en France, j'en ai déjà parlé, en Allemagne ou dans d'autres pays, des écoles techniques qui allaient progressivement devenir des écoles techniques supérieures et qui, mais plus tard, ceci nous rapporte au XXe siècle, allaient se transformer en universités. Ce parallélisme de démarche allait conduire néanmoins à une certaine divergence quant à l'évolution institutionnelle. Comment le comprendre et sur quelle base, en quelque sorte, trouver des clés d'explication? Deux processus ont joué à cet égard. Le premier a été celui du modèle. À la fin du XIXe siècle, le modèle industriel allemand était cité en référence par tous les pays industrialisés, même l'Angleterre, et le modèle de formation des ingénieurs allemands est apparu comme le modèle à imiter par tous les pays. C'est sur cette base que les États-Unis ont développé les premières universités techniques, en particulier le MIT, et c'est sur cette base qu'ont été développées quantité d'écoles techniques supérieures dans les pays d'Europe continentale. Donc, premier constat, l'importance de l'effet de modèle. Deuxième constat, ces écoles techniques supérieures n'avaient pas la capacité de former leurs enseignants puisqu'elles n'avaient pas autorisation à délivrer des doctorats. Et il y a eu, disons, une forte tension qui a duré plusieurs dizaines d'années, qui a débouché sur l'obtention d'un statut universitaire plein et sur un modèle légèrement modifié, le modèle d'université technique à l'allemande. Et on peut dire d'une certaine façon que la formation des ingénieurs dans le monde, elle est très largement inspirée par ce modèle allemand qui s'est traduit par des duplications dans de nombreux pays tout au long du XXe siècle. Alors bien sûr, aujourd'hui, les choses ont quelque peu changé et depuis la fin de la Deuxième Guerre, le modèle est le modèle américain, le modèle de grande université de recherche liant toutes les disciplines sur un mode, disons, fédératif. Encore faut-il remarquer que nous avons des pratiques américaines une vision quelque peu déformée, puisque des universités délivrant le doctorat aux États-Unis, il n'y en a guère que 200, à comparer aux 2000 institutions d'enseignement supérieur. Et la dernière observation, c'est qu'aujourd'hui, et ceci relativise aussi tout ce qu'on peut dire sur les spécificités du modèle français, on peut considérer que plus de la moitié des diplômes d'ingénieurs délivrés dans le monde le sont dans des institutions qui n'ont pas le statut universitaire au sens plein, c'est-à-dire qui sont habilités à délivrer le doctorat. Alors, j'en viens maintenant, pour tenir à peu près mon horaire, j'en viens à la troisième partie de mon exposé, la question des mutations. Pourquoi des mutations? Comment des mutations? J'ai choisi de parler d'abord, de donner d'abord quelques éléments de contexte. J'évoquerai ensuite ce que j'ai appelé des lignes de force, on pourrait les comprendre comme des règles du jeu, et je terminerai ensuite sur des visions personnelles, ce que j'ai appelé des vœux ou des propositions d'adaptation pour les responsables des écoles. Trois éléments de contexte. Premier élément, un environnement en mutation rapide et quasi imprévisible. La chose n'a pas besoin d'être répétée quatre fois. Cet environnement changeant, il l'est sur le plan des technologies. Il suffit de penser à l'évolution des biotechnologies, à l'évolution de l'informatique. Il est également sur le plan industriel, puisque aujourd'hui, les règles du jeu ont évolué d'une manière tout à fait étonnante. Il existe des entreprises tout à fait ayant, disons, une taille et une réputation tout à fait importante qui ne fabriquent plus les produits qu'elles vendent. Vous avez également le phénomène d'émergence d'une force de production asiatique et en particulier chinoise, hein, la Chine se présentant comme ayant vocation à devenir, disons, la World Factory. Vous avez également le poids nouveau pris par les par le marché, le poids nouveau du client, du consommateur, qui est un homme donc versatile, qui demande toujours plus. Donc toutes ces évolutions ont un caractère, elles sont importantes, elles obligent à changer et elles sont très largement imprévisibles. Donc on peut, à partir de ce tableau, en venir à un premier constat. Les formations d'ingénieurs ne savent pas très bien au départ ce qu'elles doivent faire, mais elles savent qu'elles doivent changer. Donc ceci est la première le premier principe que je vous propose par rapport à une interrogation sur les mutations. Le deuxième élément de contexte que je voulais vous proposer concerne la réalité de l'ingénieur. Contrairement au médecin, contrairement à l'architecte, l'ingénieur n'a pas un statut professionnel bien défini. On peut être ingénieur de bien des façons, au-delà même de son champ de compétences, de son profil. Et il est à cet égard révélateur et instructif de constater que sur toutes les personnes qui exercent en France le métier d'ingénieur, il n'y en a guère qu'un tiers à peu près qui sont des ingénieurs diplômés, un tiers ont un diplôme d'enseignement supérieur d'une autre nature et un tiers sont ce qu'on peut qualifier des autodidactes. Alors, cette imprécision sur le statut de l'ingénieur rend tout à fait illusoire d'avoir une approche prédéterminée, rend illusoire d'avoir un modèle sur lequel on se fonderait et sur lequel on s'alignerait pour assurer la qualité des formations. De fait, la fonction essentielle des formations initiales est d'assurer une réelle adaptabilité des diplômés tout au long de leur carrière à des situations éminemment variables et à les préparer, ajuster autant que nécessaire leurs compétences et leurs projets professionnels, en tenant compte bien sûr de leur équation personnelle. Le troisième élément de contexte que je voulais vous proposer concerne ce que j'ai appelé le parcours qualifiant de l'ingénieur. On a tendance à penser, peut-être vous et certainement dans les écoles, qu'au fond, toute la formation d'un ingénieur se joue au sein de l'école, entre le moment où il rentre et le moment où il obtient son diplôme. En fait, les choses se présentent de manière assez différente, car la qualification effective d'un ingénieur se prépare déjà au niveau des études scientifiques initiales, et leur sérieux est un élément important pour la suite, mais la qualification de l'ingénieur se joue également durant les premières périodes d'expérience professionnelle où il va peaufiner son expertise et confirmer toutes les potentialités qu'il a pu acquérir jusque-là. Alors, cette constatation qu'on pourrait juger banale met tout de même en cause un certain nombre de pratiques que nous avons en France, et elle nous interroge à cet égard. Elle minore tout d'abord l'importance de la formation par l'expérience, à laquelle nous n'accordons pas en France suffisamment d'importance. Et il est assez révélateur qu'aujourd'hui, La formation par apprentissage, qui est, disons, l'archétype d'une formation où l'expérience a un rôle particulièrement important, suscite un intérêt vigoureux, que ce soit des entreprises ou des écoles. Cette vision centrant la formation, la qualification de l'ingénieur sur l'école elle-même, met en arrière-plan l'importance du travail en équipe et le fait que l'efficience est toujours collective, donnée à laquelle les entreprises sont particulièrement sensibles. Elle donne ensuite, et vous vous reconnaîtrez bien là, un poids excessif à la réussite durant les études, étant à sacraliser le diplôme de base, alors que l'on peut accumuler les exemples de professionnels brillants qui ont eu pourtant des études laborieuses, parce qu'ils étaient lents, parce qu'ils étaient peu intéressés par les mathématiques, ou pour d'autres raisons, des difficultés personnelles. Comme le disait le président d'un pôle de compétitivité français, nous n'attendons pas des profils ciblés sur des spécialités précises, mais des diplômés ayant la capacité d'acquérir les compétences utiles, détenteurs en clair d'un bagage de base et d'une aptitude à apprendre ce qui leur sera utile. C'est donc cette vision large d'un parcours qualifiant qui est aujourd'hui un élément à garder en mémoire dès qu'on parle de mutation. Ayant ainsi donné quelques grands éléments de contexte, je voudrais m'arrêter sur ce que j'ai appelé quelques lignes de force. J'en ai retenu 6, donc avec un certain détail, qui représentent en quelque sorte les règles du jeu, de l'adaptation au XXIe siècle des formations d'ingénieurs, et ce que l'on peut considérer comme un nouveau paradigme. Premier principe, plus de pragmatisme et sans doute moins de rationalité. La rationalité, nous l'avons beaucoup en France, nous sommes les héritiers de Descartes, mais l'expérience à certains moments nous montre que les choses ont du mal à rentrer dans des schémas tout à fait formalisés. L'exemple type, et certains pourront poser la question tout à l'heure, est celui de l'estimation des besoins. Au cours des 25 dernières années, dans de nombreux pays, en France, au moins à 2 reprises, les pouvoirs publics se sont arrêtés sur la question des besoins en essayant d'évaluer par un certain nombre de démarches si l'offre de formation allait être à bon niveau par rapport aux besoins. Tous ces travaux se sont révélés a posteriori décevants, parce que des événements inopinés, appelons ça des crises, des renversements tout à fait inattendus de conjoncture, ont mis à bas les calculs qui avaient été faits laborieusement pendant des années. Autre exemple de cette difficulté de prévision, je lisais récemment le rapport d'une commission mise en place aux États-Unis par la NSF et qui visait à reprendre vraiment au fond toute la question de l'amélioration des programmes en engineering. Et lors de l'ouverture de cet atelier, je crois que c'est le président de l'Académie américaine d'engineering, disait « Nous avons dans le passé, à plusieurs reprises, mis ce sujet sur la table. Nous avons produit des rapports que nous jugions à l'époque excellents. Force est de constater, avec le recul, qu'ils n'ont pas été appliqués ou ils ne se sont pas révélés adéquats par rapport aux problèmes posés. » Donc tout ceci met en avant une obligation de pragmatisme, une attention nouvelle à l'expérience. Deuxième règle du jeu, ligne de force que je souhaiterais souligner, la nécessité de l'anticipation. Les formations d'ingénieurs ont généralement à concilier, en tant que formation préprofessionnelle, deux philosophies, on pourrait dire deux logiques. Une logique axée sur la demande, ce qu'on peut appeler en termes anglais « demand pool », où pour l'essentiel, on s'en remet à l'extérieur sur ce qu'on doit faire, prescription d'entreprise, avis d'expert, en privilégiant une conformité à une sorte de cahier des charges. Une deuxième logique est cette fois axée sur l'offre, supply push, dans laquelle le système de formation prend sur lui, compte tenu de l'incertitude sur ce que sera l'ingénieur, sur le fait qu'il dispose, parce qu'il est très investi en recherche d'un certain nombre d'éléments particuliers sur l'évolution technologique, donc où l'établissement de formation prend la responsabilité de son projet en anticipant sur les évolutions futures. Cette seconde option est clairement celle que favorisent les formations françaises. Il est clair qu'elle s'impose aujourd'hui et que cette posture d'anticipation par rapport à un environnement non déterminé, voire indéterministe, est une obligation. Elle conduit d'ailleurs les responsables d'école à avoir aujourd'hui une fonction créatrice, sur laquelle je reviendrai en conclusion. Troisième ligne de force, l'autonomie et l'encadrement de l'autonomie. On a observé dans tous les pays, plus tardivement en France, un glissement vers une autonomie accrue des établissements. Cette évolution a conduit dans notre pays à des débats de principe parfois un peu étonnants sur le désengagement de l'État ou sur les effets négatifs d'une concurrence. On peut comprendre cette autonomie comme imposée de fait par l'incapacité, d'exercer aujourd'hui, dans le contexte que j'ai décrit, un pilotage efficient de l'extérieur, avec comme seule solution une délégation de responsabilité aux acteurs de terrain. Mais cette autonomie ne peut être comprise comme une liberté sans limite. Elle oblige à un renforcement des procédures de contrôle qui sont généralement exercées a posteriori au travers des agences d'évaluation. Il y a eu ces dernières années la création d'une agence nationale couvrant l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, l'AERS. Il y a l'affirmation, l'obligation de rendre des comptes par rapport à la Cour des comptes, que l'on appelle l'accountability, qui est un principe de plus en plus mentionné aux États-Unis. En ce qui concerne les formations d'ingénieurs, le contrepoids de l'autonomie passe aujourd'hui par les instances d'accréditation. En France, la commission des titres d'ingénieurs. Et tout le problème est de préserver un équilibre satisfaisant entre une autonomie qui ne peut bien sûr s'exprimer que s'il n'est pas trop bridée et une instance de contrôle qui doit éviter d'être prescriptive. Quatrième ligne de force qui conditionne l'évolution actuelle des formations, l'accentuation d'une situation de concurrence. Cette situation de concurrence n'est pas en soi une nouveauté. Elle a existé, même si elle n'était pas, admise ou perçue à sa juste valeur. Elle découle de l'autonomie que je viens d'évoquer à l'instant. Elle induit des changements de perspective tout à fait importants et en particulier, je citerai cela qui devient un élément important de la stratégie des établissements, un travail à faire pour créer et faire prospérer une image de marque bien au-delà d'un effort de communication. Aujourd'hui, les écoles, mais les universités s'y mettent et vont s'y mettre très rapidement, savent déjà que une partie importante de leur capital est constituée par leur image de marque qui s'entretient, qui suppose un certain nombre d'efforts particuliers qui ne prennent tout leur effet que sur la durée. Cinquième élément de l'évolution actuelle des formations, l'importance de l'individualisation des cursus. Une autre donnée qui s'est imposée ces dernières années est celle de l'individualisation des cursus. Cette évolution, il faut l'admettre, s'est faite assez largement à la demande des élèves, et ce simple constat traduit une montée du poids politique des élèves dans le cadre de l'enseignement supérieur. Elle apporte aux établissements une motivation qu'ils apprécient. Elle prend des formes extrêmes puisque, on le disait lors de la première conférence, les élèves qui ont le même diplôme ont parfois suivi des trajectoires totalement différentes, certains ayant pu valider un certain nombre des crédits dont ils se prévalent par des séjours de longue durée à l'étranger. Cette individualisation des cursus comporte un enjeu que l'on ne perçoit pas toujours à sa juste mesure, celui aujourd'hui de s'intéresser à la valorisation des talents des élèves et en faisant en sorte pour que leurs, disons, ces talents puissent être d'abord reconnus et s'exprimer dans le cadre de la formation. Je terminerai cette liste, cette énumération de facteurs déterminant les évolutions des formations par un retour aux enjeux économiques et à la question de l'emploi. Dans le passé, les formations d'ingénieurs sont apparues comme des réponses à des besoins, comme une offre réputée s'ajuster à une demande, d'où d'ailleurs l'insistance que je rappelais tout à l'heure, à évaluer des besoins. On associe aujourd'hui les formations d'ingénieurs à des perspectives plus dynamiques de développement économique, donc ce qui justifie alors une politique volontariste des flux, l'offre étant créatrice du besoin, et plus précisément à la création d'emplois. Le point important à noter et que cette vision dynamique des formations d'ingénieurs se développe de façon privilégiée dans le cadre des territoires, où l'existence d'un potentiel de formation est désormais perçue comme un atout essentiel pour développer ou simplement défendre l'emploi. Le concept qui s'impose à cet égard dans le monde entier est celui de pôle, au sens d'un regroupement dans un périmètre d'un certain niveau de talent et de compétences. C'est ce processus bien analysé par les géographes qui explique pourquoi l'industrie du cinéma s'est concentrée à Hollywood. C'est ce que tous les pays essayent aujourd'hui de faire dans le domaine technologique. J'en viens maintenant à ma conclusion ou l'amorce de ma conclusion, en me permettant de présenter quatre vœux qui, d'une certaine manière, expriment des diagnostics de fond sur le système des formations et cristallisent un certain nombre d'orientations que celui-ci pourrait prendre par rapport à des problèmes reconnus comme prioritaires. Quatre vœux. Le premier vœu, pourra étonner, concerne les structures institutionnelles. Je pense très sincèrement que la priorité aujourd'hui pour l'appareil français de formation est de mettre l'accent sur la réactivité stratégique du dispositif, sans dire pour autant qu'il faille se désintéresser des programmes ou des options pédagogiques. Si je prends cette position, c'est en pensant que nous avons sur ce terrain un décalage, pour ne pas dire une faiblesse, avec nos concurrents étrangers. alors que nous pouvons, à juste titre, revendiquer une position de modèle dans la conception et l'exécution des projets pédagogiques par eux-mêmes. Quel sens donner à ce terme de réactivité stratégique ? Et comment imaginer un rattrapage à supposer qu'il soit possible ? Réactivité stratégique, cela signifie avoir la capacité d'analyser l'environnement dans toutes ses dimensions, spatiales ou prospectives, de mettre en forme des initiatives significatives à la mesure des enjeux identifiés, qu'il s'agisse du rayonnement international, de partenariats académiques ou industriels, d'investissements sur des investissements lourds ou du lancement de nouvelles formations. Le diagnostic de la faiblesse de la situation française appellerait un certain nombre de commentaires et peut-être d'apaisement. Je ne veux me fâcher avec personne. Un certain nombre de grands ensembles, j'avais cité les INSA, les universités technologiques, mais on peut penser à des réseaux, l'Institut Télécom, le réseau des écoles centrales, se sont déjà mis en tête de développer cette réactivité stratégique. Mais au fond, en dépassant ces discussions, quelles sont les conditions à remplir ? Au fond, quels sont les problèmes à régler ? Pour moi, quatre conditions doivent être satisfaites. La première est la capacité à mobiliser des ressources appropriées, en hommes ou en moyens matériels. On peut immédiatement rapporter cette condition à une condition de taille, mais je ne suis pas certain qu'il faille identifier la taille comme seule réponse à cette exigence. Deuxième condition, la qualité des interfaces avec les autres approches et les autres champs disciplinaires. Une aptitude à constituer des communautés en interne et en externe en liant des sensibilités différentes. Troisième condition à remplir, une ouverture générale et une intelligence de l'environnement au sens large. Quatrième condition à remplir, la qualité du management. On peut estimer que toutes ces conditions sont à remplir à un certain degré et pas seulement l'une d'entre elles. Et la question posée dans ces termes implique toutes les structures institutionnelles françaises, les écoles, l'université, et j'observerai avec une certaine malice qu'au fond, d'un côté les écoles, de l'autre côté les universités, possède une partie des capacités que je viens d'énoncer, sachant que personne n'a tous les facteurs de réussite dans sa main, ce qui peut donner l'idée de synergie à construire. Deuxième vœu, préparer à une maîtrise de la complexité, et j'irai plus loin en parlant de trois complexités. L'ingénieur, c'est au fond un homme des problèmes. Pourquoi les problèmes sont difficiles ? Les problèmes sont difficiles parce qu'ils comportent, à un degré variable, une dimension de complexité. Quelles sont les complexités, disons, en jeu dans ces problèmes ? J'en distinguerai trois. Une complexité pratique qui oblige à maîtriser des opérations concrètes, non formalisables, c'est ce qu'on peut renvoyer au concept de coup de main. Une complexité de modélisation où on s'applique à transformer le problème en calcul susceptible d'être résolu par des approximations plus ou moins poussées. Une complexité intrinsèque qui intervient dès que l'on doit prendre en compte des paramètres humains et sociaux et que l'on se trouve en face de contradictions irréductibles. Les formations d'ingénieurs, d'une manière générale, doivent se positionner entre ces trois complexités. Faut-il le dire, nous sommes, en tant que Français, mais nos homologues étrangers ont un peu les mêmes tentations, plutôt portés sur le deuxième type de complexité, sur la transformation de problèmes réels en modèles calculables. La question est donc de réhabiliter la complexité pratique et il faut dire, et c'est le sens de mon message, que nous avons besoin d'ingénieurs qui soient également porteurs de débrouillardise technique et respectueux de la complexité pratique. Il y a également à permettre à nos ingénieurs, à nos diplômés, d'être préparés au traitement de situations intrinsèquement complexes, et ceci implique une ouverture qui n'est pas si fréquente que ça, même si elle est réalisée dans un certain nombre d'établissements, vers les disciplines sociales, vers la sociologie, l'histoire, les sciences politiques, voire la philosophie. Troisième vœu, favoriser une vision plus culturaliste que fonctionnaliste. Lorsqu'un jeune rentre dans une école d'ingénieur, il est là pour apprendre, pour acquérir des compétences et des savoirs. Mais il est également dans une période de sa vie tout à fait critique où il donne forme à ses ambitions, où il prend la mesure de ses aspirations, où il perçoit ce qu'est son potentiel. Au cours de ces dernières années, beaucoup d'attention a été portée à améliorer, à codifier la composante cognitive de cette période de formation. Je pense, et c'est le message que je voulais délivrer ce soir devant vous, que l'on doit réagir contre cette tendance et faire en sorte qu'il faut de compléter les compétences acquises par un encouragement à la curiosité, à nouvelles approches, et ceci passant par des modèles auxquels le jeune diplômé pourra s'identifier. Quatrième vœu, encourager les profils les plus adaptés à une culture de l'innovation. Tout indique aujourd'hui que l'innovation joue déjà et jouera un rôle déterminant pour donner aux entreprises un avantage différentiel sur leur marché. Dans le même mouvement, on peut considérer que l'ingénieur doit être formé pour servir cette volonté d'innovation dans la ligne de la capacité dont il fait déjà preuve pour mettre en cause les solutions techniques existantes, pour les améliorer, pour construire quelque chose de neuf. Mais l'expression de ce vœu n'est pas suffisante en soi. Et on peut s'interroger sur les adaptations nécessaires aux formations. Quelques idées méritent d'être avancées, j'en retiendrai quatre. Le processus d'innovation se nourrit dans sa phase initiale d'un changement de vision et d'une capacité à manipuler des représentations synthétiques, sinon des formes. Or, les études d'ingénieurs, comme les études scientifiques d'ailleurs, ont aujourd'hui délaissé la géométrie pour l'algèbre et favorisent clairement les approches calculatoires. Deuxième défi à relever, dès qu'une innovation potentielle a pris corps, elle a généralement beaucoup de mal à résister aux tentations du conformisme. Ce constat, fait régulièrement, pose la question de la place accordée à des profils non traditionnels, capables de défendre leurs idées avec énergie et parfois même avec culot, d'assumer des risques, de déplaire et même d'échouer. Il y a là toute une idée sur les profils à recruter dans les écoles. Troisième exigence pour soutenir l'innovation, le fait que de nombreuses innovations résulteront dans l'avenir d'avancées scientifiques implique de porter une attention à la perméabilité avec la science, d'où une relation de proximité encouragée entre formation d'ingénieurs et formation scientifique. Je mentionnais à ce moment le choix souvent fait aux États-Unis de garder un lien très fort entre science et ingénierie. Il faudrait rajouter à cela l'initiation, l'acceptation du marché, mais ceci est une idée déjà bien connue, bien pratiquée, disons, par les écoles. J'arrive donc dans le laps de temps qui m'était accordé, moyennant quelques accélérations, à ma conclusion. un peu en forme de cri du cœur. Bon, la formation des ingénieurs est un sujet important parce que les ingénieurs sont dans la société qui nous entoure des personnes importantes, parce que c'est avec eux que l'on résoudra quantité de problèmes, ressources en eau, ressources énergétiques, préservation de risques sanitaires, infrastructures, etc. Donc tout ceci est bien clair et bien connu, et je n'ai pas d'originalité particulière à cet égard. Ce que je peux dire par contre, et ce sera le mot de la fin, c'est que l'attention portée aux formations d'ingénieurs a pour moi une valeur symbolique. Elle concrétise la confiance mise par notre société dans son aptitude à résoudre des problèmes en s'appuyant sur l'énergie des hommes, leur ingéniosité et naturellement leur connaissance. Je vous remercie.
Merci Claude Maury pour cet exposé particulièrement clair. Donc on arrive à la partie d'échange avec la salle. Donc si vous voulez intervenir, je vois une main qui se lève. Si vous voulez amener un micro. Monsieur là-bas.
Bonsoir. En bon ingénieur, ma question sera une question à tiroir. D'abord, quand vous parlez de la formation des ingénieurs, je voulais vous demander, selon vous, qu'est-ce que c'est que les ingénieurs, qu'est-ce qui les caractérise, qu'est-ce qui les définit ? Est-ce que c'est une corporation ? Est-ce que c'est une classe sociale ? Est-ce que c'est une caste ? Est-ce que c'est une confrérie ? Deuxièmement, dans cette caractérisation, qu'est-ce qui relève d'une construction sociale et qu'est-ce qui relève d'une sorte de, comment j'avais dit ça, qu'est-ce qui serait le résultat objectif d'une démarche cognitive qui est déterminée par les problèmes techniques à résoudre, par ce qui est demandé à l'ingénieur. Donc qu'est-ce qui serait construction sociale et qu'est-ce qui serait finalement déterminé de façon objective par une démarche cognitive. Et troisièmement, donc ce qui découle de ça, c'est dans cette partie à la fois sociale et objective, qu'est-ce qui vous paraît, qu'est-ce que vous souhaitez développer, qu'est-ce que dans la comme formation, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez conserver, qu'est-ce que vous voulez développer, qu'est-ce que au contraire vous voulez abolir dans cela. Merci.
Très bien. Bon, question peut-être un peu compliquée, un peu complexe pour pas jouer facilement sur les mots. Je répondais d'une façon assez carrée. Bon, j'ai dit tout à l'heure, l'ingénieur n'est pas un être professionnel très bien défini. Mais vous me posez la question, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur ? Pour moi, l'ingénieur, c'est une culture. Une culture tendue, une culture de réalisation. Alors, on pourrait parler de paradigme, c'est quelqu'un qui est dans une culture de réalisation. Et pour moi, ça me suffit. Alors, par rapport à ce que vous disiez ensuite sur l'aspect cognitif, je crois que j'ai dit d'une façon nette, mais vous me donnez l'occasion de réinsister à nouveau, les formations d'ingénieurs ont une obligation cognitive, c'est-à-dire on ne va pas dans une école d'ingénieurs sans apprendre des choses. Bon, ceci dit, on passe à côté du sujet si on n'accompagne pas ce transfert de connaissances d'un environnement de valeur, c'est-à-dire si on ne transmet pas, si on n'accompagne pas l'acte de cognition de l'adhésion à des valeurs et au fond à une culture. Donc je me reboucle assez bien. Pour moi, l'ingénieur, c'est une culture. Dans une école d'ingénieur, au fond, l'important, c'est qu'ils saisissent et qu'ils s'approprient cette culture. Alors, il y a des tas de choses importantes. Il faut passer des examens, apprendre des choses, suivre des cours. Mais au fond, à travers ça, je vais à l'essentiel.
Merci. Monsieur Devant.
Oui, je ne vais pas poser une question sur la formation, mais sur les résultats de la formation. Et je ne sais pas si on peut répondre à la question. Il existe un classement de Shanghai pour la formation. Il vaut ce qu'il vaut et critiqué. Par contre, on ne parle jamais de la valeur sur le marché de l'ingénieur, si l'ingénieur peut être considéré comme un objet mercantile qui peut traverser les frontières librement, etc. J'ai l'impression quand même que les ingénieurs français sont assez appréciés à l'étranger. Je cite souvent comme exemple le fait que les écoles de chimie françaises exportent beaucoup d'ingénieurs de chimie, notamment en Allemagne, pays ô combien d'esprit chimique, où la chimie est... Bon. Et donc, est-ce que l'on pourrait, indépendamment, j'irais, des problèmes d'embauche qui dépendent beaucoup de l'image, de la formation, et des... Hein, si on sort du MIT ou je sais pas trop quoi, c'est bon. Mais indépendamment de ça, et donc quelques années après, est-ce qu'on pourrait comparer la valeur sur le marché de l'ingénieur basée sur leur efficacité réelle, qui est totalement non mesurable. Alors, je voudrais faire, j'en profite, parce après je vais quitter, pour faire une autre remarque sur l'innovation. Je dis souvent, l'innovation, si un ingénieur n'est pas un innovateur, ce n'est pas un ingénieur. Donc, 100% des ingénieurs devraient être des innovateurs. Et là, je me pose une question que tu n'as pas abordée, à mon avis, c'est sur la méthodologie de l'enseignement. C'est-à-dire que pour former un ingénieur, il va passer un concours, c'est-à-dire il est très formaté, on l'oblige à apprendre des tas de trucs, sans forcément d'ailleurs qu'il comprenne toujours, et donc, et dans les écoles, ce système de apprenez des connaissances et n'y réfléchissez pas trop, j'exagère bien sûr, ça se perpétue. Et donc, alors que on devrait au contraire donner... C'est peut-être un avantage de l'université, beaucoup plus d'autonomie, à la limite faire des formations psychanalytiques, pas leur apprendre forcément l'histoire ou la philosophie, mais pour que l'ingénieur comprenne que sa fonction essentielle, c'est l'innovation. Et c'est d'ailleurs pas réservé à l'ingénieur, hein, mais lui, il doit absolument l'être. La comparaison, autant la méthode globale pour l'apprentissage de la lecture, c'est quelque chose à rejeter complètement au départ quand il faut acquérir les bases, mais quand on arrive à la fin de ses études, alors là, oui, c'est une découverte qu'il faudrait encourager. Excusez-moi de cette longue intervention.
D'accord. Alors, il y a deux questions. Je répondrai sans trop d'hésitation et en essayant d'être concis. En fait, la première question, elle se dédouble d'une certaine façon. Il y a une question qu'on peut se poser, c'est de savoir est-ce que d'un pays à l'autre, enfin une entreprise fait la différence entre recruter un Anglais, un Allemand, un Français, etc. Alors, il n'y a pas des masses d'entreprises qui recrutent d'une façon internationale. Il y en a quelques-unes. J'avais l'occasion d'en interviewer une grande entreprise pétrolière qu'on peut assez facilement reconnaître. Bon, et en gros, la réponse était la suivante, assez choquante hein, pour nous. C'était de dire, je vois pas beaucoup de différence entre les diplômés anglais, les Allemands, les Français. Quand j'embauche un Anglais, il a 23 ans. Quand j'embauche un Français, il a 25 ans. Et quand j'embauche un Allemand, il a 27 ans. Alors, c'est une boutade, mais ça aide. C'est un premier élément de réponse, c'est-à-dire que qui met un peu à mal notre immodestie traditionnelle, c'est-à-dire que lorsqu'on pose la question de savoir ce que valent les formations, et je dis pas que les ingénieurs français sont les moins bons, ce sont certainement les meilleurs, mais on a des réponses qui sont un peu à l'emporte-pièce en disant moi je juge la personne, etc. Et on a beaucoup de mal à faire ce distinguo qu'on aimerait, etc. Bon, premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, ça c'est un débat récurrent, c'est de dire au fond, est-ce que quand on regarde la compétitivité des économies, il y a un rapport entre les formations d'ingénieurs et la réussite de l'économie. Bon, j'étais récemment avec un Canadien qui était à l'École Polytechnique de Montréal qui me disait, dans le fond, vos formations en France, vous êtes vraiment très bons, mais est-ce que l'économie, l'industrie française est meilleure ? Voilà. La question est posée, j'ai fait dans le passé, il y a quelques années, une note sur le sujet, la réponse est hésitante, c'est-à-dire on a beaucoup de mal à voir d'une façon claire, on ne sent pas très bien la corrélation entre la qualité de formation et la qualité de l'économie. Si je prends un exemple, et j'avais d'ailleurs prévu de le dire, mais j'ai sauté ce passage, bon, l'une des forces de l'industrie allemande, ce sont les PME. Comment les PME recrutent-elles leurs ingénieurs? Elles recrutent leurs ingénieurs dans des formations qui, jusqu'à ces dernières années, étaient des formations en 4 ans, qui étaient des formations plutôt un peu minorées, moins scientifiques. Bon, voilà, c'est-à-dire que la corrélation nous surprend. Donc, juste pour répondre et donner un... Bon. Alors, concernant la question sur la pédagogie de l'innovation... En fait, il y avait une réponse dans mon exposé, mais j'ai sauté le passage, parce que j'ai sauté des tas de choses. C'était de dire, au fond, il n'est pas évident que... Disons, j'ai beaucoup travaillé mon texte, et tellement que j'avais beaucoup trop de choses pour parler en 50 minutes. Et j'ai travaillé encore aujourd'hui sur la partie traitant de l'innovation. Donc là, vraiment, là, je... Bon. Et donc, au dernier moment, j'ai dit l'innovation. Bon, bien sûr, il faut en parler. Et j'ai donné des conditions fortes en disant, donc, avoir une vision synthétique, c'est quelque chose d'important. Avoir une grande gueule, c'est quelque chose d'important, etc. Bon. Et puis, j'ai dit, ça, ce sont des défis pour les établissements de formation. La question, c'est, est-ce que les écoles peuvent faire ça? Et j'avais une phrase un peu sibylline en disant, je n'en suis pas sûr. Toute la question est de savoir s'il faudrait ou non faire des formations particulières pour favoriser en quelque sorte le profil d'innovateur, style atelier, etc. Et c'est un sujet... Bon, donc pour dire qu'il n'est pas certain, je ne suis pas tout à fait d'accord en disant tous les ingénieurs doivent être innovateurs. En fait, dans une entreprise, tout le monde doit aimer l'innovation, mais quelqu'un d'impliqué dans l'innovation, c'est pas tout le monde. Donc, c'est ça. On se rend compte que la question de la formation et de l'innovation est une question difficile. On ne peut pas former tout le monde à l'innovation et repousser, disons, les autres matières. Donc, on peut se demander s'il ne faudrait pas des formules particulières, disons, des années supplémentaires, etc. Ou, enfin, je ne sais pas. Mais la question est posée. Pour moi, elle est ouverte.
J'ai vu une main se lever au fond. Oui, monsieur.
Vous avez dit que certaines écoles comme Polytechnique étaient non utilitaristes par vocation, oui. Contrairement à d'autres.
Oui.
Le modèle prétendu anglo-saxon semble être plutôt utilitariste en voulant favoriser les résultats à très court terme et notamment les résultats économiques, financiers et autres. Arrive peut-être un nouveau modèle que celui du modèle chinois qui forme des centaines de milliers d'ingénieurs par an, peut-être des ingénieurs fabriqués, construits entre guillemets en batterie. Est-ce que notre modèle français ne risque-t-il pas d'être écrasé par ces rouleaux compresseurs du profit en mettant à l'écart les notions d'humanisme, de culture que vous avez évoquées? Ou bien d'être perdu dans un stakhanovisme forcené.
D'accord. Alors, la question est peut-être un peu longue. Je vais essayer, enfin, de la simplifier, enfin d'y répondre aussi bien que possible. Je vous renvoie au texte écrit. Enfin, ceux qui en ont la possibilité, je pense que le texte écrit sera accessible sur Internet. Je pense que le texte écrit de ma conférence est très supérieur à ce que j'ai pu en traduire en oral parce que j'avais trop de choses à dire et j'ai dû sauter sur un certain nombre de points un peu rapidement, etc. Puis avec l'obsession quand même de respecter le contrat en temps. Alors, quand vous lirez le texte écrit, et ça je le dis, bon, disons, l'école polytechnique, il est clair qu'elle se présente comme une école qui ne se veut pas utilitariste. Enfin, c'est un peu sa coquetterie. Bon. Mais je suis pas du tout d'accord avec vous sur les formations américaines. Les formations américaines, elles sont tout à fait dans la ligne de ce que j'ai dit. C'est-à-dire, elles sont anticipatrices, elles sont pragmatiques. Le terme d'utilitariste colle pas très bien. C'est-à-dire, elles sont pas sur le court terme. Elles sont... raisonnablement par rapport à toute l'analyse que j'ai faite, elles sont bien, si vous voulez, dans la ligne d'évolution que j'ai tracée, c'est-à-dire elles cherchent à imaginer ce qui va se passer. Si vous voulez, le propre d'une formation aux États-Unis, c'est que la personne apprend son métier après. Donc elle apprend des choses, enfin utiles potentiellement utile, et l'utilitarisme, il vient après. Donc si vous voulez, je nuancerai vos propos. Bon, concernant la Chine, je mettrai pas du... Enfin, le terme utilitariste, pourtant, je le retiendrai pas. C'est ce que j'appelle l'aspect fonctionnel, si vous voulez. Non, le terme utilitarisme me gêne un peu. Bon, le modèle chinois, à supposer qu'il existe, autant qu'on puisse le comprendre, il est strictement fonctionnel, c'est-à-dire il y a un cahier des charges. On dit aux gens, vous devez apprendre ça, vous devez apprendre ça. Bon, les gens l'apprennent plus ou moins bien, et puis après on est content. Bon, donc je réponds, je nuancerai votre analyse, mais plus que de répondre à votre question, je mettrai un peu en cause votre vision. Et pour moi, enfin, ce que j'ai essayé de dire, si vous voulez, c'est que les formations dans le monde entier, dans les pays industrialisés, sont pas très différentes les unes des autres. Quand l'école centrale de Paris rencontre l'université technique de Munich, ils se comprennent, ils parlent le même langage. Quand s'ils vont en Suède, s'ils vont voir les gens du MIT, c'est le même langage. On se comprend, même s'il y a des écarts de durée, de matière, etc. Donc on se comprend. Il y a une relative convergence. Et si vous voulez, j'ai attiré votre attention sur le fait qu'on avait tort en France de s'obnubiler sur le fait qu'on soit tellement spécifique que les autres peuvent pas comprendre. Bon, avec cette idée, disons, d'une French touch, qu'on peut dire, enfin quelque chose que les autres peuvent pas comprendre. Quoi. On est tellement bien que les autres peuvent pas comprendre. C'est pas tout à fait ça. Pour moi, on est tous sur le même bateau, et les analyses que j'ai faites, elles sont tout à fait valables pour des formations nord-américaines, etc. Pas chinoises, ça je suis d'accord. Mais la Chine, c'est un peu le mystère. Si vous prenez l'Inde, vous avez en Inde des formations qui sont tout à fait de niveau international, et puis vous avez des formations qui sont certainement d'un standard différent.
Merci. Peut-être une... Ah, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Allez, à vous.
Merci. J'ai été ingénieur pendant 25 ans. Là, j'ai quitté le métier. Et je retiens deux qualités que l'orateur a indiquées. Il faut être curieux et rebelle. Bon, moi, j'étais trop rebelle. J'étais dans l'institution militaire. J'en ai tiré les conclusions. Je suis parti. Et je suis un peu inquiet de voir que vous mettez en exergue qu'il faut accroître la réactivité stratégique au sein de l'institution. J'ai beaucoup de craintes que ça sera difficile. Ça me laisse beaucoup de temps maintenant de réfléchir à l'évolution de nos sociétés, notamment de l'ingénieur, et je crains que notre modèle français soit un peu en retard par rapport aux dragons asiatiques. Alors, l'orateur précédent parlait des Chinois. Il y a peut-être une puissance beaucoup plus importante à craindre, ce sont les Coréens. Ils viennent de montrer que notre modèle, notamment dans le domaine nucléaire, ne plaît pas aux clients. Une petite société coréenne, finalement, a damé le pion à nos brillants ingénieurs technico-commerciaux d'EDF, d'Areva et aussi du président de la République. Donc c'est vraiment une faillite de notre modèle. Alors, ça va au-delà de l'ingénieur, c'est aussi le politique. Est-ce qu'il y a assez d'ingénieurs dans le monde politique? Ça, c'est une autre question qu'on pourrait poser. Alors ce que je voudrais dire, c'est qu'on devrait être plus les ingénieurs, notamment les ingénieurs commerciaux, plus à l'écoute du client, plutôt qu'à l'écoute du produit qui a été développé et innové, peut-être parfois pour se faire plaisir. Donc c'est un peu une crainte que j'ai pour notre positionnement à l'avenir. Il faut raisonner à 30 ans, là. Les Coréens seront 80 millions dans 30 ans, et sans doute qu'ils auront la première industrie automobile avant les Renault et les BMW.
Alors, pour essayer de répondre, je pense que la réponse, elle est... Enfin, une partie de la réponse est dans mon exposé, c'est-à-dire que... Enfin, d'ailleurs, vous l'avez relevé vous-même. On voit assez bien aujourd'hui, c'est un peu notre travail de mettre ça en forme, les qualités, les exigences, les attitudes qui sont nécessaires pour bien former les ingénieurs. Donc ça a été dit, je vais pas me répéter. Alors, le point sur lequel vous mettez l'accent, je l'ai dit un tout petit peu, c'est que il n'y a pas que les formations d'ingénieurs, ce serait trop facile. On aurait la meilleure formation d'ingénieurs, on aurait la meilleure industrie. Le fait est, c'est qu'il y a un jeu industriel qui n'est pas nécessairement corrélé aussi clairement avec la qualité des formations. Et je l'ai déjà dit en termes de qualification, c'est-à-dire en disant la qualification des ingénieurs, elle n'est pas jouée le jour où ils quittent l'école. Il y a des choses après qui sont importantes, et donc l'industrie est importante. C'est-à-dire, on ne peut pas dire tout passe par les formations d'ingénieurs, ce qui serait, bon, pour moi peut-être un peu facile, un peu valorisant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ce que vous dites est un exemple parmi d'autres. Effectivement, les réussites industrielles, les réussites économiques, elles représentent quelque chose, une problématique en soi. Si on n'a pas les bons ingénieurs, on pourra se planter. Mais avec de bons ingénieurs, on pourra se planter quand même. Enfin, donc c'est pas. Il y a une problématique formation et une problématique industrielle. Et les deux choses, la corrélation, je l'ai déjà dit tout à l'heure, d'ailleurs sur une autre question, n'est pas une corrélation mécanique.
Merci Claude Maury. Il y a encore beaucoup de questions sur